Get down.
Bonjour à tous et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop. Nous sommes comme chaque semaine très heureux de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et aujourd'hui, comme une fois par mois cette saison, nous allons fêter un anniversaire, celui d'un disque qui aura marqué l'histoire du rock ou de la pop. Alors, on dit que le rock est une grande famille, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit cousin oublié, voire méconnu. Vous savez, celui qui vous appelle monsieur dans les réunions de famille, voilà, c'est lui. Enfin, ce sont plutôt eux. Parce qu'ils sont deux, Donald Fagen et Walter Becker, et ils forment le duo Steely Dan. Vous avouerez qu'on les connaît un poil moins bien que Tonton Dylan et Grandpa Hendrix, non? Et pourtant, c'est pas une raison pour faire la tête si on se retrouve assis à côté d'eux pendant le repas, parce qu'ils ont des choses à dire et à faire entendre. On va s'en rendre compte aujourd'hui, en se plongeant dans l'écoute de leur sixième album, Aja, sorti en 77 et dont on fête donc, pour nos amis matheux, les 45 ans. Et comme à l'accoutumée et pour notre plus grand plaisir, c'est Gauthier qui nous accompagnera aujourd'hui. Salut Gauthier!
J'aime beaucoup la comparaison de famille parce qu'effectivement, c'est celui que personne n'écoute et pourtant qui a tellement de choses à nous apprendre.
C'est ça, hein?
Ouais, absolument.
Alors, dans cette émission, on va commencer par vous présenter les deux Lascars, les resituer un petit peu dans l'époque, notamment au moment de la sortie de cet album, et enfin, on vous parlera de l'accueil réservé à ce disque et de sa postérité.
Ouais, c'est un mot assez complexe, postérité.
Ouais. Mais sans plus attendre, on va se plonger dans le bain en s'écoutant la première piste de l'album, Black Cow. Chers amis, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'album Aja du duo Steely Dan, sorti en 77. Et alors Gauthier, comme je le disais dans l'édito, c'est un album que l'on découvre un peu tard. Non ? C'était pas ton cas, toi ?
Un peu. Alors, c'était carrément mon cas. C'est même une émission en forme de défi personnel. Je me suis servi de Thérapie Pop pour enfin l'écouter consciencieusement. Ça fait des années que je lui tourne autour parce que, en fait, quand tu t'intéresses un peu à la musique, il est dans les classements de tous les plus grands albums de l'histoire. Parce que c'est, et surtout, il est extrêmement influent, donc souvent cité par des gars genre Tom York, etc. Mais j'arrivais pas à m'y pencher. Chaque fois que je mettais un peu la rondelle, j'entendais ça, puis je me disais non, c'est pas ma cam. Et il s'avère quand je me suis intéressé à Daniel Fagen plutôt, l'un des deux, on va en reparler, à cause de son album, je vais y arriver moi aussi, The Nightfly, qui est d'une classe, mais absolue. Je sais pas si t'as vu la pochette.
J'ai vu la pochette.
J'adore. Ouais. Et en fait, je m'étais intéressé à lui, et en écoutant son album, qui est à peine un peu plus simple d'approche, on tombe sur des pépites du genre la chanson que je vais te mettre en fond, qui s'appelle Iggy. Et Daniel Fagen, je suis un peu tombé amoureux. Je te la laisse courir en fond.
C'est plus que reggae, je trouve.
Ah, c'est trop bien.
C'était un album sorti en 82. J'ai vu le premier de sa carrière solo.
Ouais.
Pendant que son acolyte, lui, était parti sur la coulée douce à Hawaï avec toute sa famille.
Il faut ce qu'il faut.
Ils avaient dit qu'ils faisaient une pause. Et comme on vous l'a dit, donc Steely Dan, c'est un duo. Est-ce que tu peux nous présenter les deux loulous, Gauthier ?
Alors, il y a Daniel Fagen, justement. Fagen, dont on est en train d'écouter un extrait de son album solo. Lui, il est né dans le New Jersey en 48, d'un père comptable et d'une mère qui était femme au foyer, mais chanteuse de swing à ses heures perdues. Ouais. Donc il a eu ça comme influence, on va dire. Et puis c'est un gars qui, dans les années 50, comme à peu près tout le monde à l'époque, va aller acheter une rondelle, mais c'est une rondelle bien évidemment de rock. Pour son cas, lui, ça sera Chuck Berry et son fameux Reading and Rocking.
Y a pas à dire, c'est toujours efficace.
C'est toujours efficace, mais on est bien loin de ce qu'on vient d'entendre, ou même de Black Cow, l'extrait de l'album Aja qu'on s'est mis en début de comment ça s'appelle, d'émission. Je lui jette pas la pierre, mon premier album c'était Aqualung de Aqua.
Ouais.
Et finalement.
Moi c'était John Scatman.
Hey. Ils étaient mieux lotis à l'époque quand même, quand leur premier album c'était Chuck Berry. Et finalement on s'en est pas trop mal tiré. Alors pour la petite anecdote, c'est un de ses cousins qui le mettra au jazz. Je le dis parce que pour Steely Dan, le jazz
a
une importance fondamentale.
Donc ça c'était Donald Fagen. Son acolyte alors Walter Baker.
Alors Walter Baker c'est le guitariste bassiste. Il est né à New York dans le Queens. Son père faisait des machines de découpe de papier. Et sa mère s'est juste barrée immédiatement quand il est né en Angleterre. Merci, bonsoir, on ne la reverra pas. Voilà, il va rencontrer notre cher Donald Fagen dans leur collège, comme ça arrive très souvent dans les groupes de rock, en 67. Ils passeront immédiatement les deux pour les bizarres du groupe, qui sont toujours enfermés dans leur chambre avec les cheveux longs et à fumer des Lucky Strike. Mais pas le rocker sympa, tu vois, le rocker...
Bien renfermé sur lui-même.
Ouais, cure. Voilà. Même si les cures n'existaient pas à l'époque. Mais voilà, pour la petite anecdote, qui est une anecdote bien triste, il est mort depuis d'un cancer en 2017.
Ouais. Comme quoi, les Lucky Strike. Alors que Keith Richards, lui, est encore de ce monde. Ça se demandait s'il y a une justice, quand même.
Keith Richards a enterré beaucoup de monde, par contre. Ouais.
Et donc, ils se sont rencontrés à la vingtaine, à peu près, et ils ont tout de suite commencé à jouer ensemble, c'est ça ? Parce que ils en vivaient ou pas ?
Non, ils en vivotaient, pour être plus précis. Mais ils étaient bons compositeurs, donc en fait, ils vont être remarqués par ABC Records, qui est une sacrée maison de disques. Qui va les envoyer en Californie, donc ils vont quitter leur côte est pour la côte ouest. Problème, c'est que les chansons qu'ils composent à l'époque, ils sont artistes studio, enfin ils sont compositeurs studio pour d'autres groupes.
D'accord.
Comme ça se faisait beaucoup dans les années 50, 60. Et manque de bol, ce qu'ils composent est un peu trop élitiste pour les artistes d'ABC. Soit on n'arrive pas à chanter ce qu'ils composent, soit on n'arrive même pas... Enfin voilà, c'est pas mainstream, on va pas vendre des albums avec ça.
D'accord.
Et pourtant, à l'époque, je te mets un petit extrait d'une de leurs premières compositions sous le nom Steely Dan. C'est Reeling in the Years, extrait de leur premier album. Ils sont encore assez audibles, ça, on voit un tout petit peu encore l'influence de Chuck Berry. Ma petite guitare électrique, rythme un peu plus. On est encore un peu.
Ouais, c'est péchu, mais c'est pas si sophistiqué. Enfin, tu vois.
Et pourtant, pour IBC, c'est déjà trop compliqué.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait là pour simplifier le truc? Est-ce qu'ils vont retourner fumer des cartouches de Lucky Strike dans leur piole d'étudiant ou
Alors, ils vont effectivement continuer à fumer du clope. Ça, je pense que ça les a occupés toute la vie, pour notamment Baker. Ils ont formé Steely Dan en 70 en se disant que, bah, vu que personne ne veut de leurs chansons, bah, autant les jouer eux-mêmes.
Ouais.
Notamment en répondant à une annonce pour un gars qui cherchait un bassiste et un clavériste, et ils y sont allés avec, je cite, des côtelettes de jazz. Et ça tombe bien.
Je sais pas ce que ça veut dire, ça, des côtelettes de jazz.
Moi non plus, mais je pense que ça veut dire inspiration de jazz.
D'accord.
Mais le mec connaissait peut-être pas le mot inspiration, donc il a pensé côtelettes. Je sais pas.
D'accord.
Je sais pas.
Et ce nom Steely Dan, Gauthier, ça vient d'où? Parce que littéralement, c'est Dan d'acier. Dan, c'est le diminutif de Daniel. C'est en regardant des films pour adultes ou
Presque. Parce que c'est le Naked Lunch de William Burroughs, qui est un écrivain assez sulfureux.
Ouais.
Et en fait, dans le livre, il y a.
C'est le déjeuner tout nu.
Ouais, c'est ça, ouais. Absolument. Il y a un produit révolutionnaire. Qui est vendu par un des protagonistes, et donc voilà, c'est de la littérature Beat Generation.
D'accord.
C'est vraiment un nom de gars. Ils font une musique élitiste, ils ont voulu prendre un nom un peu intello. Voilà.
Mmh. Parce que sinon, j'avais la poutre de l'Arkansas, moi, mais non, donc bon, d'accord. Bon, les amis, il est temps de marquer une petite pause dans l'émission.
T'écoutes pas trop de jazz, toi, non?
Non, pas trop. Et pourtant, en plus, on va marquer une pause en s'écoutant la quatrième piste de l'album, Peg.
Your big debut. It's like a dream come true.
Vous êtes toujours sur Radio Présence.
C'est sympa, Céline Dame.
Mais oui, c'est sympa.
Ça fait onduler.
C'est vrai qu'on n'a pas l'image, mais tu ondules bien,
Gauthier. J'ondule beaucoup.
Ouais. C'est la dernière partie de cette émission consacrée à l'album Aja, donc de Steely Dan. On va désormais s'attaquer à l'album en lui-même, Gauthier. On se situe où dans leur discographie qui a débuté en 72
On est en 77, comme tu l'as dit tout à l'heure, très justement, le 23 septembre. Et on est déjà au 6e album. Ils sont très, très, très productifs. Ils avaient quelque chose à dire, manifestement, à l'époque.
Ouais, ça force le respect quand même, parce que les Loulous ont sorti un album studio par rang sur cette période, c'est énorme.
Après, ils sont pas tous du même acabit qu'Aja.
Non.
Voilà.
Et tiens, justement, ce titre, Aja, Gauthier, Kezako.
Là encore, je pense que c'est pour faire un peu branchouille Intello. C'est le nom d'une femme coréenne qu'avait épousé le frère d'un de ses amis du lycée.
Ah oui, elle a dû les marquer quand même, la nana.
Apparemment, suffisamment, où le nom était cool.
Ouais. Et si on devait ranger cet album dans une case musicale, bon courage, ce serait laquelle?
Je te cite Pitchfork, parce qu'ils ont réussi à le faire, moi je ne sais pas le faire. Aja est autant un disque de jazz que de pop, même si dans ses meilleurs moments, c'est les deux et ni l'un ni l'autre. Steely Dan était si expert dans la fusion des genres qu'il était souvent difficile de dire d'où vient le morceau ou exactement quelle tradition, fusion, R&B, soul, disco classique, ont été exploitées et réinventées. Et c'est extrêmement vrai, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de jazz. Effectivement, ils font une pop avec souvent des rythmiques, des batteries jazz, ou une recherche dans la mélodie vocale aussi, où il y a des prises de risque énormes. Et tu le disais hors antenne tout à l'heure, Iggy, par exemple, qu'on a écouté tout à l'heure, par contre, sonne plus un peu plus reggae, notamment. C'est des vrais gars. Je pense pas que c'était des bêtes de scène, par exemple. Effectivement, je pense que c'était pas les mecs les plus sympas en studio parce qu'ils sont très dans leur truc, un peu pointus, etc. C'est un peu les geeks, tu sais, musicaux.
Ils ont pas les dégaines, en tout cas, de bêtes de scène.
Absolument, c'est incroyable, la tronche. Et je pense que c'est des gros geeks de studio. Il y a des anecdotes qui sont racontées, notamment pour l'enregistrement d'Aja, où tu vois que bon, c'était pas la fête. Mais par contre, c'est des gars qui ont manifestement une culture musicale et une capacité à mélanger les genres qui est incroyable.
Ouais. Donc au final, c'est un joyeux gloobie boulga.
Oui, un peu.
Voilà, mais je suis assez d'accord avec Pitchfork, pour le coup, c'est complètement inclassable. Et donc, du coup, c'est un album qui intervient dans la seconde carrière de Steely Dan.
Ouais, on pourrait le dire comme ça. En fait, la première partie, ils sont un groupe, on va dire classique, ils essaient de faire des tournées justement avec des concerts, etc. Et tout ça, ils l'arrêtent en 74 justement parce que bon, ils sont pas des bêtes de scène et puis surtout ils ont pas un grand charisme, on va dire. On avait même, pour te dire, on avait été obligé d'enrôler un chanteur, David Palmer, parce que Fagen se sentait pas de chanter sur scène, ce qui est quand même un peu emmerdant quand t'es
quand t'es musicien, que t'as un peu de succès. Ça me rappelle un peu Elliott Smith, qui avait le track pareil.
Il y avait Elliott Smith, il y avait, comment il s'appelle, sur qui on avait fait une émission à l'époque, pas Drake, ça va me revenir, c'est comme la précédente émission, je perds les noms non-stop, mais qui jouait de ses dos au public en partie, ou toujours recroquevillé sur sa guitare. Robert Johnson aussi, qui avait joué dos à la guitare, à son public, enfin bon, voilà. Mais c'est, oui, effectivement, Robert Johnson, c'est pas pour le track, c'est pour pas qu'on lui pique ses accords, mais c'est un autre problème.
C'est pas pareil,
Et donc c'était la première partie, pour revenir à nos moutons, de la carrière. La seconde, c'est justement un peu comme les Beatles, une période studio où en fait ils vont s'enfermer,
ils enregistrent,
et ils font cette espèce de fusion un peu incroyable. Je te mets un autre extrait en fond, qui est la chanson éponyme Aja, qu'on peut pas se mettre parce qu'elle dure 8 minutes, donc pour faire une pause, c'est une très longue pause. Ouais. Mais écoutez là en fond, les prises de risque mélodiques sont hallucinantes. Up on the hill. Alors, t'entends très nettement l'intro un peu jazzy.
Oh, complètement.
Et écoutez un peu en fond, je vous la laisse, mais bon, ils cassent le rythme, ils changent la voix. Enfin,
c'est agréable en plus.
Oui, ah non, mais c'est vraiment chouette comme album.
Et s'il y avait des choses à retenir justement de cet album, toi, qu'est-ce que tu choisirais?
La virtuosité des troupes, incontestablement. Ils sont entourés d'artistes jazz, etc. Il y a des solos de batterie, notamment sur Aja, qu'on écoute exceptionnels. La pureté de l'enregistrement, c'est des geeks les mecs, c'est des perfectionnistes. Et donc, l'album, quand tu l'écoutes maintenant, notamment avec des formats un peu
MP3 comme ça.
Ouais, non, de qualité justement, pas
non,
MP3, un truc un peu propre.
Ouais.
C'est remarquablement bien fait. Et bien évidemment, comme tu le disais, ce boogie boulga de style rhythm and blues, jazz, voilà, avec toujours par contre un son très rond, parce que tu as utilisé le terme de boogie boulga, je tiens à le dire pour ceux qui voudraient écouter l'album. C'est pas des pistes les unes à côté des autres, tout est très cohérent. C'est juste qu'au sein même d'un même son, ils arrivent à mélanger beaucoup d'influences, ouais. Ce qui est d'autant plus admirable. C'est pas,
c'est vrai.
Je sais pas, je fais une piste rock, une piste rap, une piste... Voilà. Non, c'est vraiment... C'est vraiment un truc très très bien fait.
Et au niveau de l'accueil, ça se passe comment? Parce que faut savoir quand même que la décennie 70 marque un tournant dans la musique populaire. Hein, on a le punk, la new wave qui commence à débarquer.
La disco et tout.
La disco, voilà. Donc du coup, eux, comment ça se passe?
Ils sont... L'album est pas du tout dans l'air du temps pour la peine, ouais. Puisque effectivement 77,
on est très loin du punk et du disco là.
Ouais, on est plus proche des Sex Pistols en principe pour les auditeurs normaux que de Steely Dan. Et pourtant ça va marcher. Ils cumuleront à la 3ème place des charts américains, à la 5ème place du Royaume-Uni, parce que ils font un son très compliqué, mais ils arrivent à le démocratiser, à le rendre presque pop, et c'est admirable. C'est le talent de ces gars justement.
Ouais, et c'est un album qui a même été récompensé, je crois, d'un Grammy.
Et pas n'importe lequel, le Grammy de l'enregistrement justement.
Et voilà.
On parlait de Geek. Encore aujourd'hui, quand on l'écoute, c'est d'une pureté, d'une perfection, c'est incroyable. Un peu le jazz probablement aussi qui a influencé là-dedans. Les albums de jazz étant connus souvent pour être très propres.
Bon. Et la suite alors, Gauthier? Parce que normalement tout roule pour le duo. Et pourtant.
Ouais, alors ils vont commencer à travailler à la suite, qui est dans mon souvenir un album qui s'appellera Gaucho, qui est un bon album aussi, incontestablement. Mais
sorti
ça va être.
En 80.
Ouais, c'est le dernier, non d'ailleurs.
Ouais. Enfin. C'est leur dernier de cette période-là. Après, ils ont recommencé. Je crois qu'ils ont ressorti un en 2000 et un autre en 2003.
Oui, tu as raison en plus, ouais. Avant la mort de notre ami Baker. Le projet, par contre, se déroulera pas sans heurts. Il y a des revers techniques, des problèmes juridiques, notamment parce que ABC, donc leur producteur émission, ouais. a été racheté par MCA. Voilà, et qui leur impose, on va dire, d'autres contraintes. Il y a un procès en plus avec Keith Jarrett, le pianiste jazz. Qui les accuse, je crois.
L'un des meilleurs.
Oh mon dieu, allez écouter le concert à Cologne pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a aussi des mésaventures personnelles, puisque par exemple la petite amie de Baker va mourir d'une overdose de drogue dans son appartement de l'Upper West Side.
Ça c'est classique.
Voilà. Absolument, quand tu as un record.
Quand tu as un record, normalement ta nana crève chez toi.
Ouais, mais quand tu es un geek jazzy et tout, bon voilà. Ce qui lui coûtera des poursuites à 17 millions de dollars quand même, c'est pas une paille. Peu de temps après, notre bon Baker sera heurté par un taxi, ce qui fait qu'il se brise la jambe. Enfin bon, voilà, c'est un peu compliqué tout ça.
Il y a un petit nuage noir quand même.
Il y a un karma qui est en train de tourner manifestement. Bon, ils arriveront quand même à sortir Gaucho, et comme tu disais très justement, on peut considérer que Gaucho est le dernier grand album de Steely Dan, à mon avis. Enfin,
ouais,
dans tout du moins de cette période.
Ils se sont séparés pendant un petit moment, puis ils se sont retrouvés. Ils ont sorti deux autres albums, donc comme vous le disiez, assez bien accueillis dans les années 2000.
Ouais,
quand même,
oui.
4 Grammy Awards pour Two Against Nature.
Oui, qui est un bon album.
Ce qui est pas rien.
Non.
Et en 2017, donc Walter Becker décède d'un cancer foudroyant. Donald Fagen dit qu'il continuera à le faire vivre à travers le groupe, qui repart du coup en tournée immédiatement après la mort. Si ça c'est pas de la postérité, je sais pas ce que c'est.
Ou un petit billet à gratter, hein. Les rockers sont assez habitués à ça aussi.
C'est possible.
Mais y a, de toute façon, pour ceux qui aiment ça, vraiment, si on passe sur Daniel Fagen après l'album qu'on vous a fait écouter en tout début, Nightfall.
Ah oui, c'est Nightfall, ouais, tu as raison.
Nightfly, pardon, excuse-moi. Tu continues Steely Dan dans un autre style, mais c'est toujours aussi agréable, c'est toujours aussi bon.
Allez les amis, il est déjà l'heure de se quitter. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous être fidèles. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site ou l'application de Radio Présence ou sur la page Facebook de Thérapie Pop. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre thérapie. Et là, on va s'attaquer à du lourd, à du très lourd, mais patience. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier, et à la semaine prochaine.
Salut Théo.